I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Jean-Guilain Meige. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Lucille Como, Charles Ardenne et Emmanuel Dupuis pour parler ensemble d'Il Primo Omicidio d'Alessandro Scarlatti, dirigé par René Jacobs, mise en scène Romeo Castellucci, c'est à l'Opéra de Paris. En ce moment, La Gioconda d'Almicar et Ponchielli, dirigé par Paolo Carignani, mise en scène Olivier Pi, c'est à la Monnaie de Bruxelles. Il y aura un coup de cœur de Lucille Como pour When What Men Live By, de Borislav Martinou, dirigé par Jiří Bělohlávek. Je vais y arriver. C'est un CD sorti chez Supraphone. Et puis, double plaisir, puisqu'un petit salon de Lucille Como, partant de la série de France 2 Philharmonia, ce que la télévision fait de la musique classique. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le spectacle The End of Reality, samedi 9 février à 18h à la Commune à Aubervilliers. Nous ouvrons cette dispute avec une nouvelle production de l'Opéra de Paris qui enchaîne les événements puisqu'il propose en ces débuts d'année un spectacle mis en scène par Dmitri Tcherniakov dont nous avons parlé la semaine passée et un autre signé par Romeo Castellucci dont nous allons parler, deux des plus passionnants metteurs en scène de notre époque. Alors Dmitri Tcherniakov n'a pas été épargné la semaine passée dans cette émission. Qu'en sera-t-il pour le metteur en scène italien? On va le voir dans un instant. Précisons que c'est René Jacobs à qui la musique baroque doit tant, qui est dans la fosse pour cette vision de l'histoire d'Abel et Caïn. Un oratorio d'Alessandro Scarlatti écrit pour six solistes et orchestres, un livret d'un auteur resté anonyme. Un ouvrage créé à Venise en janvier 1707. Il s'agit de la création française de cette œuvre. On écoute un duo d'Abel et Caïn. Thank you.
mormora il ruscello perché s'agita la fronda, il ruscello la fronda ti risponde.
Voilà pour cet extrait, un remarquable enregistrement. Il sera diffusé cet opéra sur France Musique le 17 mars à 20h. Version scénique d'un oratorio. Emmanuel Dupuy, pour être tout à fait précis.
Exactement.
Alors, par quoi on commence ?
Ben justement, on peut commencer par cette question-là, cette mode de mettre en scène des oratorios, c'est quand même un petit peu étrange. C'était déjà le cas la saison dernière avec Jeff Stad de Handel, et c'est à nouveau le cas avec ce Scarlatti. Ça pose question, parce que bon, à Paris, ça fait des années qu'on n'a pas vu un grand opéra de Handel, un grand opéra de Lully, même de Scarlatti, pourquoi pas, comme la Griselda qu'a enregistré René Jacobs aussi, qu'on aimerait voir un jour en scène. Mais non, on préfère mettre en scène des oratorios, et c'est une gageure, parce que et en l'occurrence particulièrement pour ce Primo Omicidio, parce que c'est une œuvre dans laquelle il y a très peu d'action théâtrale, c'est plutôt de longs monologues méditatifs, et pour le metteur en scène, c'est justement oui, c'est un défi. Mmh. Alors face à une matière dramatique aussi ténue, Romeo Castellucci, lui, prend le parti de l'abstraction, notamment pendant toute la première partie, qui se passe devant un tulle blanc. Derrière ce tulle, on devine des jeux de lumière, à un moment, on voit une immense forme humaine, toute blanche, une forme humaine qui s'effondre petit à petit. Et les chanteurs sont à l'avant-scène, dans une gestique toujours très hiératique.
Qui fait beaucoup penser à celle de Bob Wilson.
Exactement.
Nous
avons pensé exactement la même chose. C'est vrai que...
C'est un hommage, non ? Ça ne peut pas être autre chose.
En tout cas, on est plus dans une forme de ritualisation que dans une véritable action théâtrale. C'est un petit peu différent au cours de la seconde partie. Là, on a un décor qui est plus réaliste, qui représente un champ de joncs. Alors c'est peut-être le champ que cultive Caïn, on ne sait pas. Mais c'est là aussi où il va y avoir. Cette seconde partie est plus animée puisque c'est là que se passe le meurtre, c'est-à-dire la véritable scène de théâtre de tout l'oratorio. Mais ça ne dure que 5 ou 6 minutes. Hein. Cette scène est quand même très très bien traitée, puisqu'en fait, ça n'est pas Caïn qui tue Abel, mais c'est le double enfantin de Caël.
Caël et Abin.
De Caïn, pardon. Je m'en mets les pinceaux. C'est le double enfantin de Caïn qui va tuer Abel, et le personnage adulte va assister à cette scène comme s'il était en dehors et il y assiste totalement horrifié. Et à partir de ce moment-là, à partir du meurtre, tous les chanteurs vont être doublés par des enfants qui seront sur scène et qui vont mimer
Du playback.
Voilà, comme une forme de playback, alors que les chanteurs, eux, seront dans la fosse. Par ce procédé, Castellucci veut probablement nous dire qu'à partir de ce premier meurtre, l'humanité est soumise à une forme de régression. c'est pas inintéressant, mais le problème, c'est que ça dure longtemps. Et que ce procédé du playback, on s'en lasse quand même assez vite. Et même, c'est gênant. Parce que moi, j'avais tout le temps envie de regarder les chanteurs, en fait, et pas de regarder les enfants.
Mais vous aviez le choix.
J'avais le choix, mais
oratorio ou version scénique.
Oui, mais il se trouve que quand quelqu'un est devant vous en train de chanter, vous avez, enfin, moi personnellement, j'ai envie de regarder la personne qui chante, et du coup, je ne regardais plus la scène. Donc, ce qui est quand même assez gênant, parce qu'il s'y passe de très jolies choses. D'abord, les enfants jouent assez bien. Et
il y a toute une troupe d'enfants pour le coup, plus nombreuses que les personnages de l'oratorio.
Exactement, c'est les enfants de la maîtrise de l'opéra, parce qu'il faut qu'ils sachent chanter pour réaliser ce playback. Et puis il y a de très jolis moments, le moment où on lave le corps d'Abel, et au même moment Ève se voile la tête et chante une déploration comme une mater de Lorosa. Il y a des moments assez émouvants, mais donc visuellement, plastiquement, je dirais c'est un spectacle qui est vraiment très beau, mais malgré tout, moi je ne cache pas que je me suis par moments un petit peu ennuyé. Parce que ça n'est pas du théâtre, c'est davantage une forme de rituel que du véritable théâtre.
Lucille Comeau, tiens.
Oui, je suis assez d'accord sur le fait que c'est une gageure de vouloir mettre en scène cette pièce-là. Et en même temps, c'est toute la contradiction, je pense, qui est vraiment propre à l'œuvre de Scarlatti. Elle est d'une expressivité et je pense d'une intensité dramatique qui dépasse sa qualité d'oratorio. Moi aussi, je craignais le côté extrêmement hiératique de la forme même d'oratorio, le fait que tous les airs soient répétés, qu'en effet, on a des duos en permanence quasiment jusqu'à la fin avec quelques airs solo, mais que la forme est extrêmement figé et je trouve que la mise en scène réussit à en faire quelque chose qui n'est pas totalement décollé du sens même musical de l'œuvre. C'est-à-dire que je pense que à l'intérieur même de l'œuvre de Scarlatti, il y a une potentialité dramatique qui permet à Castellucci de développer en effet des idées qui sont assez riches plastiquement et aussi d'un point de vue de l'interprétation. C'est un texte, ce verset-là de la Genèse, enfin de l'après, juste après Genèse, qui est extrêmement court et qui a été développé à un niveau assez incroyable par le livret, dont apparemment on ne connaît pas l'auteur, parce qu'il y a quasiment rien en fait, c'est quelques lignes, le meurtre reste absolument mystérieux, on ne sait pas vraiment pourquoi Caïn tue Abel, on sait juste que c'est un renouveau, que c'est la nouvelle condamnation qui va relancer une forme de genèse, et ça pour le coup, Castellucci le met en scène de manière très 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 belle. Moi je, bon, évidemment, pensais aussi à Bob Wilson dans la première partie, j'ai pas forcément vu un hommage, parce qu'en fait Bob Wilson lui-même s'inspirait de pratiques extrêmement en effet ritualisées, qui sont le théâtre oriental, le japonais, etc. Surtout penser à la marionnette, moi, parce que cette figure que vous décrivez, qui s'élève dans un premier temps derrière ce rideau de tulle qu'on voit de manière très floue, c'est une immense marionnette. Et c'est très intéressant, je trouve, parce que dans la deuxième partie, les enfants, finalement, sont comme des marionnettes. Il y a un vrai travail, à mon avis, de marionnettiste qui est à la base de cette mise en scène, qui font que les deux actes, même s'ils sont très différents d'un point de vue plastique, voilà, si on regarde, sont en fait dans une correspondance absolument passionnante. Moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Je me suis absolument pas ennuyée. Je trouve que la deuxième partie gagne, et puis on reparlera aussi peut-être aussi dans la direction musicale, gagne en intensité, parce que René Jacobs, au début, j'ai pas eu peur. Hein, je trouve ça absolument magnifique de bout en bout, mais ça gagne en tempo, ça gagne en intensité et également dans les voix. Ce moment, en effet, où il faut choisir entre regarder les chanteurs et regarder les enfants. Je trouvais ça justement très intéressant de ce que ça crée comme rapport assez dialectique à la scène, parce qu'on est dans un... Forcément, c'est un oratorio, il y a quelque chose d'extrêmement didactique dans la manière dont la parole, entre guillemets, divine, nous est assénée en tant que spectateur. Et le fait de créer deux niveaux de lecture possibles, ça crée un espace d'interprétation pour le spectateur qui est vraiment passionnant.
Charles Ardenne, qui n'avait pas l'air d'accord avec certains propos de Lucille Comeau, notamment sur la raison du meurtre.
Oui, la raison.
L'inspecteur Ardenne.
Voilà, j'ai mené l'enquête et selon mes conclusions, en fait, c'est Caïn est jaloux de la faveur divine envers Abel, puisque Abel lui fait un sacrifice de son bétail. Et je ne sais pas si Dieu mange sans gluten ou s'il est carnassier, mais il préfère le sacrifice d'Abel plutôt que celui de Caïn. Du coup, il est déçu et il se venge. Il y a tellement de choses à dire sur ce spectacle, sur le fait de mettre en scène un oratorio, parce que déjà, quand même, à l'époque, même la création de l'oratorio, certes, c'était fait d'une certaine manière contre le théâtre. Ça a été fait dans l'oratoire, la partie de l'oratoire dans l'église, pour mettre une énergie, une puissance au service de la parole divine qui amène les fidèles quand même dans l'esprit de la contre-réforme à être enthousiasmés par ce qui se passe quand même dans la Bible, mais sans avoir besoin du théâtre. Mais en même temps, il y a de la théâtralité tout le temps, partout. C'est extrêmement dramaturgique et on en a eu des exemples que moi j'ai trouvé d'une efficacité impressionnante, notamment le Jephtha par Klaus Guth la saison dernière, ou le Triomphe du temps et de la désillusion par Varikovsky à Aix-en-Provence. Il y a beaucoup d'exemples quand même qui nous montre cette puissance, et notamment je trouve dans ce spectacle, comme ça a été dit par mes collègues, grâce au travail de la symétrie que fait Castellucci. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on avait dit sur sa Flûte enchantée à la Monnaie, qui était très symétrique. Là, il multiplie les symétries. Vous avez donc une symétrie entre les deux parties, puisque la première partie, il y a ce grand rideau qui coupe de manière symétrique la scène entre l'avant-scène et l'arrière-scène. À l'avant-scène, les humains qui regardent perdu derrière le rideau les plans de Dieu, parce que derrière il y a tous les mouvements immenses de matière, de matériaux. En fait, c'est Dieu qui est en train de refonder l'univers. C'est aussi le jardin d'Éden qu'Adam et Ève ont perdu, duquel ils ont été déchus. Donc ça, c'est une symétrie verticale. Et dans la deuxième partie, qui donc est symétrique aussi, vous avez une symétrie horizontale, puisque on l'a dit, les chanteurs descendent dans la fosse, les adultes descendent sur la fosse, et cette fois ce sont les enfants qui restent sur scène. Et bien évidemment, tout ça, ça a un sens très très profond par rapport à l'œuvre, puisque l'œuvre de Scarlatti, ce ne sont que des symétries du fait des personnages. Vous avez Adam et Ève, Abel et Caïn, le diable et Dieu, qui doivent être aussi symétriques vocalement. Et là, cela, c'est un peu moins le cas, mais bon, on en reparlera. Et évidemment, si Castellucci fait ça, c'est pour remettre à l'honneur l'enfance, l'innocence, l'humain sur scène contre le diable et Dieu. Il y a quand même des gestes qui sont d'une puissance qui devrait révolter quand il prend Dieu et qu'il le met dans la fosse et qu'il fait venir Adam et Ève sur scène triomphateurs, en fait.
Alors, il y a encore beaucoup plus que tout ce qu'on a déjà dit dans cette production, parce que ces lumières dont vous avez parlé au premier acte, c'est vrai que j'ai lu dans la presse, mais c'est l'évidence que ça ressemble à des étoiles de Marc Roscoe qui seraient animées avec un jeu de couleurs, d'horizontalité, de verticalité, là encore, qui sont vraiment, enfin moi je trouvais extrêmement saisissant, à savoir comment ces lumières sont réglées par rapport à la partition, par rapport au livret. Ça, c'est quand même plus complexe et je ne me risquerais pas à analyser cela, mais enfin c'est le travail de Castellucci de l'avoir fait pour nous. Dire qu'il y a quand même aussi beaucoup d'autres éléments qui vont arriver, comme une annonciation, un triptyque qui va être descendu des cintres à l'envers, qu'il va y avoir non pas un agneau mais une poche de sang qui va être percée. Enfin, il y a beaucoup de choses, y compris une chose là que je n'ai pas comprise, moi en tout cas, mais vous allez m'expliquer, descendre des cintres, un tableau bleu où écrit « blue » et un tableau monochrome vert où écrit « verde ». Donc bon, vous allez me dire ça dans un instant. Je n'en doute pas. Non, vous avez une réponse tout de suite, là, Lucille Comeau, avant que j'enchaîne.
Non, moi j'ai compris une sorte, justement, dans le principe même de Genèse, on nomme les choses de la nature. Le bleu s'appelle bleu. Enfin, c'est le verbe, quoi.
D'accord.
Pour moi, c'était vraiment l'irruption du verbe sur la scène.
Charles votre hypothèse.
Moi, monsieur, j'ai une réponse. C'est au moment où il chante, bien sûr, entre les bocages et les ruisseaux, l'opposition dialectique des éléments dont on a parlé, le vert, le bleu, et puis aussi, comme par hasard, vous avez le bleu qui est derrière le bleu qui descend, puis le vert qui vient devant, c'est l'espoir du paradis.
D'accord, vous
mais
en avez une.
Mais faites confiance à Charles, parce qu'il sait pourquoi Abel a tué Caïn, Caïn a tué Abel. Donc à partir de là, on peut y aller.
Tout est sûr, Emmanuel Dupuis.
Non, mais je pense que Charles a raison. C'est parce qu'il est question de l'eau au moment le panneau bleu apparaît. Il est question des bosquets au moment les verts apparaissent.
Je ne disais pas assez les surtitres.
C'est un petit peu simpliste. Hein,
d'accord,
quand même,
hein, bon, je cherchais plus compliqué, parce que dans Moïse et Aaron, il y en avait des textes qui passaient, de mise en scène par Castellucci.
Ceci étant, chez Castellucci, il y a toujours énormément de symboles.
C'est pas grave de pas tous les saisir. Hein.
Non, parce que je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de ce spectacle, c'est que ça fonctionne comme l'interprétation des rêves.
Absolument.
C'est par libre association d'idées et c'est à chacun de se faire son film, quoi, en fait. Et bon.
Mais c'est tellement riche qu'il est déjà 19h23, je vous ferai remarquer, et qu'on est très en retard et qu'on n'a pas parlé beaucoup pour l'instant de musique. Vous avez commencé à l'évoquer, Lucille Comeau. Alors il faut dire déjà que le B-Rock Orchestra de René Jacobs a doublé ses effectifs pour cette production. Il y a quand même 40 musiciens dans la fosse. Il y a beaucoup d'ailleurs de jeunes gens, enfin Nous étions placés assez près de la fosse, vous et moi, Emmanuel Dupuis, dimanche, et on pouvait aussi être tenté de regarder les musiciens jouer. Donc une belle énergie. Moi, j'étais quand même stupéfait. Notamment, il y a des outils de cordes où on a l'impression qu'il y a un seul violon qui joue tellement c'est parfait, y compris dans des moments qui ont des tempi vraiment très très forts. Et donc, on se dit mais comment est-ce possible? J'ai ressenti peut-être comme vous aussi, Lucille Comeau, une première partie plus lente, peut-être plus, je ne sais pas, peut-être que c'est lié à ce qui se raconte sur scène. Et la deuxième partie qui dure plus longtemps que la première, mais est passée de façon extrêmement rapide. Mais alors des analyses peut-être un peu plus précises que les miennes qui sont vraiment celles d'un béotien, Charles Ardenne.
C'est incroyable de voir que René Jacobs fait ses débuts à l'Opéra de Paris cette production. En effet, il a réussi à mettre Scarlatti, à la taille de Garnier, qui est quand même une salle immense. Mmh. On pense toujours à Garnier comme le petit frère de Bastille.
Il n'y a pas beaucoup de places de différence. Hein.
Exactement, il y a quand même 2013 places à Garnier et 2745 à Bastille. Voilà, c'est assez peu d'écart. Et il arrive à garder une qualité chambriste et de recueillement en doublant, en se déployant à la mesure de cette salle. Il a la puissance des coups de tonnerre terribles pendant le meurtre, enfin, c'est glaçant. Et en même temps, moi j'ai trouvé qu'il en avait fait aussi une espèce de concerto pour violon. Le premier violon est très présent et c'est sublime.
Lucille Comeau.
Et puis il y a un vrai travail pour le coup du collectif, à la fois entre l'orchestre et les voix, parce qu'il faut dire que toutes les voix quasiment systématiquement sont doublées à l'unisson à l'orchestre. Chaque chanteur a son instrument, entre guillemets, et ça fonctionne parfaitement, enfin, c'est absolument magnifique. Et puis pour parler un peu des voix, bon, il y a deux duos, donc Abel et Cain et Ève et Adam. Les chanteurs, je trouve, travaillent parfaitement l'un avec l'autre dans ces deux cas-là. C'est des duos magnifiques. Bon, je suis un peu plus de réserve à la fois sur Dieu et sur le diable.
notamment le diable pas de vous,
ouais, en même temps, c'est équilibré. Non, surtout, Robert Guido, on en a parlé assez récemment dans un cosy qu'on avait vu avec Emmanuel sur Arte, en l'occurrence dans un cosy de Mozart, que je trouvais assez faible. Et là, je retrouve, alors peut-être influencé par cet opéra-là, quelque chose, je trouve, un peu instable dans la voix. Je le trouve un peu en dessous des autres. Mais bon, ça reste...
Correct. Emmanuel Dupuis.
Moi, je suis pas totalement convaincu par l'effectif orchestral qui. Bon, c'était pour Garnier, effectivement, comme Charles l'a dit, René Jacobs était obligé d'étouffer l'effectif orchestral. Mais du coup, par moment, il y a quand même une certaine lourdeur dans les textures parce qu'il a rajouté beaucoup de cuivre, il a rajouté des percussions. Et même si il y a toujours une certaine fluidité évidente même dans la direction de René Jacobs, mais c'est au niveau de la texture. Moi, par moment, j'ai un petit peu été gêné par rapport notamment à l'enregistrement que Jacobs a réalisé de l'œuvre il y a une vingtaine d'années où on a des textures beaucoup plus fines, beaucoup plus diaphanes.
Enfin, au disque, c'est une chose.
Oui, voilà.
Garnier, c'est une autre.
C'est deux choses différentes. Mais ceci étant, le baroque orchestra, c'est vraiment un excellent orchestre sur instruments anciens avec à la fois beaucoup de précision et une très grande cohésion, comme vous l'avez dit.
Les voix, pour aller très vite.
Les voix, bon, moi je trouve c'était une très bonne distribution, qu'il n'y avait pas vraiment de maillon faible, mais pour moi il y a quand même une chanteuse qui domine le plateau, c'est Kristina Hammerström, qui chante le rôle de Cain, donc un des deux rôles principaux. C'est une voix très riche, avec beaucoup de couleurs, et en plus c'est une artiste qui a une très forte présence scénique, et je trouvais qu'elle dominait un petit peu, mais les autres sont quand même tous très, très bien dans leur rôle.
Charles Ardenne, pour finir.
Moi j'étais très déçu par les voix, comme j'ai dit tout à l'heure, les voix aussi doivent avoir la symétrie, c'est pas très compliqué, il faut un dieu qui soit contre-ténor aigu, il faut on a dit tout à l'heure Glido, ça doit être Lucifer, Glido, je suis désolé, il est pas basse, il faut un bas, on manque pas de basse, on va en parler tout à l'heure. Abel et Cain, il faut pas mettre de mezzo, il faut mettre une mezzo qui peut aller vers le contralto et
ça
une mezzo qui
bien,
peut montrer.
C'est un petit peu le cas.
Moi je manquais vraiment de symétrie.
C'est un petit peu le cas quand même.
Moi je trouvais aussi qu'il y avait un petit contraste.
Ils ont quand même des voix très différentes.
Cain pour moi était pas à l'aise dans le grave et Abel, ça montait pas dans l'aigu.
Bon, on s'arrête là, mais il y a tellement de choses à dire. Hein. On a pris du retard, certes, mais il fallait du temps pour parler d'Il Primo Omicidio d'Alessandro Starati, dirigé par René Jacobs, mise en scène Romeo Castellucci. C'est jusqu'au 23 février à l'Opéra Garnier. On pourra écouter cet oratorio sur France Musique le 17 mars à 20h. À suivre, La Gioconda, Le Petit Salon, et tout de suite... Tout de suite, le coup de cœur de Lucille Comeau, What Men Live By. C'est un disque dont on écoute tout de suite un petit extrait.
Kopanich departs and Martin resumes his work. Two soldiers pass the window and the others in civilian, next the householder in polished galoshes. Next the woman, poorly dressed, with a child in her arms.
Mais de quoi s'agit-il, Lucile Gaumont?
Bah, c'est une petite curiosité que ce disque qui rassemble une symphonie, donc la symphonie numéro 1 de Martinou, et un petit opéra dont on entendait là un extrait, en un acte, What Men Live By, en français, c'est ainsi que vivent les hommes. Et c'est son premier enregistrement. Bohuslav Martinou, c'est un compositeur tchèque qui est né à la fin du 19e siècle. Il a passé un certain temps à Paris avant la Première Guerre mondiale. On entend d'ailleurs beaucoup dans sa musique les influences de Ravel, de Debussy, de Paul Ducasse aussi. Et puis il a fini ses jours en France aussi, mais il reste assez méconnu encore chez nous. Il part s'installer pendant l'occupation aux États-Unis où il écrit beaucoup. C'est un compositeur extrêmement efficace qui répond à des commandes d'orchestres du monde entier. Et c'est à ce moment-là, donc au tout début des années 50, qu'il écrit ce petit opéra d'une quarantaine de minutes, en anglais donc, sur un livret adapté de Tchekhov, une nouvelle tirée des contes pour le peuple à forte inspiration chrétienne. C'est l'histoire d'un cordonnier, Martin, qui se plonge dans la religion après avoir perdu femme et enfant, et puis une nuit Dieu vient le visiter en rêve et lui promet de venir le voir le lendemain. Entre-temps, le vieux cordonnier rencontre un soldat pauvre, une femme seule avec un enfant. Il prend la défense d'un petit voleur et le soir, Dieu lui dit « Alors, est-ce que tu m'as reconnu parmi toutes ces personnes que tu as vues aujourd'hui ?» Alors, l'opéra a connu un destin assez contrarié. Il a finalement été joué en 54. On entend du coup pour la première fois au disque sous la direction de Jiří Belolavec, avec l'orchestre philharmonique tchèque. Et c'est une découverte, enfin pour moi du moins, un tout petit opéra, hein, vraiment c'est très court en 5 scènes, qui a certes cette dimension de parabole un peu sérieuse, mais qui s'écoute comme un opéra populaire, comme une comédie musicale pour vous Arnaud.
Oui.
Avec des airs qui ont des formes de chansons, entrecoupées, on l'a entendu, d'une narration parlée. Il avait d'ailleurs été prévu pour être créé à la télévision. Et la direction musicale rend très bien justice à cette destination populaire. Les voix sont claires, assez superbes, notamment celle qui interprète, là, ce qu'on entendait, le cordonnier hyper expressif, même si son anglais n'est pas parfait. À l'écoute, parfois, on comprend pas absolument tout. Le petit chœur est tout indiqué puisqu'il s'appelle Martinou Voices. Ouais, très, très belle couleur. Il faut dire que ce chef, Jiří Belolavec, décidément, je vais pas y arriver.
Non.
A passé une grande partie de sa carrière musicale à jouer Martinou. Il le connaît à fond. Ça s'entend aussi dans la symphonie qui clôt le disque. Malheureusement, il est décédé en 2017, quelques mois après cet enregistrement. Il laisse donc cette intégrale Martinou en suspens, en attendant que quelqu'un prenne la relève. Écoutez ce disque qui a donc paru chez Supraphone.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute musique avec la Gioconda d'Almicar et Ponchielli, dirigée par Paolo Carignani, mise en scène Olivier Pi. C'est en ce moment à la Monnaie de Bruxelles et jusqu'au 12 février. Et puis on pourra ensuite voir, comme c'est toujours le cas pour les productions de la Monnaie, cette production en streaming sur le site internet de la Monnaie du 25 février au 17 mars. J'ai un opéra en 4 actes, un livret, là on sait de qui, d'Arrigo Boito, d'après Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo. Enfin, Padoue, là, ce sera Venise, on va en parler. Ça a été créé en 1876 à la Scala de Milan. Donc, c'est Venise, 17e siècle, un noble banni qui revient déguisé en marin, qui est aimé, lui, par la cantatrice, cette fameuse Gioconda. Mais lui, il aime, évidemment, une autre femme, qui est en plus la femme d'un ponte. Donc ça, évidemment, vous imaginez que ça passe mal. Je fais très vite parce que on va entendre nos camarades en parler et surtout entendre avant Béatrice Uria Monson dans le rôle titre. Lucille Gomeau, pas plus que moi, n'a pu faire le déplacement à Bruxelles pour voir cette production de la Gioconda. On va s'en remettre aux avis et critiques de nos deux camarades. Est-ce bien raisonnable? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le cas. Charles Ardenne.
Alors, la mise en scène, peut-être pour commencer, Olivier Py, qui n'arrête pas, c'est assez incroyable son rythme de travail. Il en est à sa troisième nouvelle mise en scène en quatre mois.
Ouais, Castellucci, Tcherniakov, Kamarikovski, Chompa non plus.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais justement.
Ce qui est un problème.
Justement, oui ou non, c'est exactement ce que je voulais dire. Le fait est que, évidemment, du coup, on pourrait dire que c'est un problème parce que on a l'impression qu'ils reprennent, des procédés, des objets, des systèmes, comme ça a été dit la dernière dispute sur Tcherniakov, qui reprenait par rapport à Carmen Dex dans Les Troyens, l'idée d'une thérapie. Là, évidemment, on retrouve plein de choses qu'on a déjà vues, oui, certes, dans Olivier Py et dans plein d'autres productions. Il y a de l'eau, une baignoire, du sang, des corps nus, des décors. Il y a un clown aussi, je pense qu'on en a déjà vu pas mal. Sauf qu'évidemment, il faut dépasser un peu ces clichés, dans le sens littéral du terme, chose qu'on a déjà vue, pour voir à quel point, moi, j'ai trouvé que ça correspondait à ce drame, qui est quand même d'une violence et d'une brutalité et d'une puissance assez insoutenable. On va dire, oui, alors Olivier Py, il fait, dans la danse des heures, il fait un viol collectif, il transforme une danse qui tourne en tournante. Oui, il est sur le point d'immoler une pauvre aveugle, sauf que le bûcher, c'est dans le livret, la bacchanale, c'est dans le livret. On a dit tout à l'heure que le drame avait été déplacé de Padoue à Venise, et c'est aussi ça, hein, c'est aussi lié au carnaval, lié à la folie, au délire absolu. Un des personnages principaux est le chef de l'Inquisition. Il a un espion horrible. Tout est noir, tout est brutal, tout est puissant dans cette mise en scène parce que c'est puissant et brutal dans cette œuvre.
Emmanuel Dupuis.
Oui, je suis assez d'accord. La difficulté de Gioconda, c'est que c'est un grand mélodrame avec des situations parfois un peu invraisemblables ou totalement rocambolesques, avec des affects complètement démesurés. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal aujourd'hui à voir ce genre d'ouvrage. Et Olivier Py, lui, a pris le parti de jouer le jeu. C'est-à-dire, il propose une grande fresque où il y a un sens de la narration qui est toujours très clair et puis une certaine démesure visuelle qui colle parfaitement à l'ouvrage, une des mesures visuelles à laquelle participe évidemment le décor de Pierre-André Weitz qui signe le l'univers d'Olivier Py, c'est-à-dire c'est un décor qui ressemble à d'autres décors que Pierre-André Weitz en réalité a déjà fait, c'est-à-dire une sorte de chambre noire avec une perspective fuyante qui s'en va jusqu'au fond de la scène, et puis un système de passerelles qui descendent des cintres et qui permet de faire des changements à vue. Mais ceci étant, c'est un décor assez noir, assez oppressant, il n'y a aucun pittoresque, même si le plateau est recouvert d'eau. Peut-être que c'est pour évoquer Venise, mais en tout cas, on n'est plus au XVIIe siècle, on est plutôt à l'époque fasciste, c'est-à-dire le méchant Barnaba et ses sbires portent des chemises noires. Mais tout ça est fait quand même assez subtilement, il n'y a pas non plus de fragamés et de mitraillettes sur scène. Il y a cet élément visuel dont a parlé Charles, c'est-à-dire ce masque de clown grimaçant qui revient en permanence tout au long de l'opéra. C'est un peu comme le Joker de Batman, si vous voulez. Et ce masque de clown qui jouera un rôle assez important à la fin, puisqu'il prend une taille totalement démesurée. Et Barnaba surgit de l'œil du clown pour commettre son dernier méfait. Après, moi, sur la danse, j'ai été beaucoup moins convaincu parce qu'il y a donc cette présence récurrente de danseurs très dénudés, voire complètement nus. Là aussi, on est chez Olivier Py. Et on ne comprend pas toujours très bien ce que font ces danseurs. Moi, le viol collectif pendant la danse des heures, ça ne m'a pas paru d'un intérêt évident. Et puis, j'ai trouvé que les chorégraphies n'étaient pas toujours très, très subtiles non plus. Je trouvais ça même parfois un petit peu désordonné, pour tout dire. Disons que c'est un spectacle, à mon sens, très réussi, très cohérent avec l'ouvrage, mais on aimerait le débarrasser de quelques scories, et ça serait parfait.
Bon, on regarde quand même plutôt positif sur la mise en scène. Alors, une vision synthétique de la partie musicale, messieurs.
J'ai vraiment été ébloui par l'orchestre et les chœurs qui font une performance mais vraiment vraiment superlative. On aimerait avoir cette qualité là à Paris. Il y a toutes les couleurs du carnaval, il y a la puissance, il y a la beauté, comme a très bien dit Emmanuel, il y a une dimension mélodramatique et moi j'ai ressenti tous les affects au niveau des voix. Très rapidement, au niveau des voix, moi, j'ai vu le deuxième casting. Ce sont surtout les voix graves qui m'ont impressionné, notamment Jean Tedjian, le chef de l'Inquisition. Il a une palette de rôles très restreinte. Il fait toujours des rois ou Neptune ou des dieux. Mais alors là, dans le chef de l'Inquisition sombre, il est parfait. De même que son sbire Barnaba, qui est vil et mesquin et en même temps sonore au niveau de la voix. Et puis aussi, moi, j'ai été vraiment charmé par la Laura Adorno de Sylvia Voros, une chanteuse qui apparemment a chanté quasiment uniquement à Budapest, sauf elle était au Troyen de McVica récemment, mais une très très belle, très très belle découverte et voix.
Vous n'avez pas vu le même plateau vocal, Emmanuel Dupuis ?
Non, pas du tout. Donc moi j'ai vu et entendu Béatrice Uriah-Manzon dans le rôle titre. Alors Béatrice Uriah-Manzon, c'est une artiste touchante parce qu'elle incarne le personnage avec toujours beaucoup de flamme, mais vocalement il y a quand même de gros problèmes, les registres ne sont pas toujours très unis, on l'a entendu dans l'extrait. Il y a des trous dans la voix. le reste de la distribution, c'était aussi l'interprète de Barnaba qui dominait, mais c'était pas le même. Celui que j'ai entendu, c'était Franco Vassallo, qui est un superbe baryton italien avec un très beau timbre, un très beau phrasé, et puis une sorte de fiel dans la voix qui colle très bien au personnage. Et puis bon, il faudrait citer aussi Sylvia Trossantafé, qui joue le rôle de Laura, qui est un très beau mezzo, etc. Et je rejoins totalement Charles sur la direction musicale de Paolo Carignani. C'est une baguette à la fois précise, racée, et les chœurs et l'orchestre étaient vraiment en très très bonne santé.
Merci pour votre concision concernant cette Gioconda, mise en scène par Olivier puis dirigée par Paolo Carignani à la Monnaie de Bruxelles jusqu'au 12 février et en streaming à voir sur le site de la Monnaie du 25 février au 17 mars. Nous sommes bien dans le petit salon de Lucile Gomo. On y est bien dans ce petit salon. Et ce soir, un petit salon qui nous interroge sur un orchestre dans notre télévision.
Assumez qui vous êtes, Selena. Et apprenez à dompter votre colère. Tous les grands interprètes mentent. Parce que leur vie en dehors de la scène est impossible, douloureuse, chaotique. Faut pas en avoir honte.
Attention, Lucile Gomo.
Et oui, depuis 3 semaines, désormais France 2 diffuse le mercredi soir des épisodes de sa nouvelle production Philharmonia, écrite par Marine Gassem et réalisée par Louis Choquette, une plongée soap opératique, je cite, dans le milieu d'un orchestre symphonique. L'occasion donc de représenter sur un grand média et à une heure de grande audience un milieu méconnu du grand public, celui de la musique classique. Alors qu'est-ce donc que cet objet ? C'est une série en 6 épisodes de 50 minutes chacun qui commence par quelques accords de malheur, aussitôt suivi de l'effondrement sur la scène de la Philharmonie du chef d'orchestre. Il est remplacé aussitôt par une chef, Hélène Barizet, incarnée par Marie-Sophie Ferdan, qu'on entendait à l'instant, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne fait pas l'unanimité auprès des musiciens et de l'administration. De fait, elle est impulsive, colérique et évidemment, elle souffre d'un passé sulfureux, mais aussi d'une mystérieuse malédiction. Autour d'elle, un compositeur torturé, une violoniste torturée, un hautboïste également torturé. Globalement, dans Philharmonia, tout le monde est torturé, mais c'est normal, hein, ce sont des artistes. Bon, alors je m'étais un peu fait la promesse de décrire cet objet sans donner mon avis, mais c'est pas simple. Alors je vais m'y prendre autrement en faisant un petit tour des réactions dans la presse. Il faut d'emblée dire que les premiers épisodes ont été un vrai succès d'audience avec 3,6 millions de téléspectateurs et que la série avait été plutôt bien accueillie l'été dernier au festival de La Rochelle. Dans la presse, c'est nettement plus mitigé. Si Le Figaro parle, je cite, d'une plongée à suspense étonnante et envoûtante dans les arcanes de la musique classique, Le Monde titre lui sur un indigne mélo pour mélomane et dénonce le ridicule de ce colossal ratage. Ridicule, c'est un mot qui revient régulièrement sous la plume et dans la bouche de musiciens plus ou moins connus qui ne se privent pas d'une part de railler l'artificialité des gestes de la chef et d'autre part de dénoncer le manque de réalisme et le simplisme du fonctionnement de l'orchestre tel que représenté dans la série. Par exemple, le fait que la chef puisse remplacer au cours d'une seule répétition son violon solo par une violoniste de 4e rang ou l'intrusion grotesque d'un homme d'affaires pseudo-mafieux dans son administration et dans son budget. La chef d'orchestre Claire Gibault s'est même fondue d'une interview dans Télérama pour dire sa colère et son incompréhension, expliquant avoir quitté la projection à laquelle elle avait été invitée, de honte et de tristesse, je cite, devant ce que cette fiction télévisée faisait de son métier et de la condition des musiciens. D'autres sont plus indulgents, se félicitent qu'enfin une œuvre pour le grand public s'empare de ce milieu si peu représenté. Et en regardant les premiers épisodes de Philharmonia, je me faisais par ailleurs cette réflexion. Un orchestre, c'est vraiment un milieu parfait pour la fiction. Des générations multiples, avec des traditions de jeu qui s'affrontent, une hiérarchie plus ou moins figée entre les pupitres et au sein des pupitres, un rapport de force particulièrement changeant entre le collectif et l'individualité du chef, des accords et des désaccords entre la direction musicale et l'administration, etc. Bref, de quoi écrire de bons personnages et de bons dialogues. Si on ajoute à ça le fait que les lieux sont plutôt cinégéniques, une scène, une salle, des coulisses, des loges, on peut s'attendre à quelque chose de passionnant. Les séries médicales parviennent bien, elles, à rendre le milieu de l'hôpital réaliste et prenant. Mais que fait donc la télévision de la musique classique?
Alors, Charles Arden est chaud bouillant. Hein. Je crois qu'il était le nègre
sens,
de la série.
Je le vois pas, mais je
oui,
sens.
Vous le sentez. Charles, votre série préférée?
Ah bah non. Il y en a d'autres qui sont intéressantes concernant la musique. Hein. Par exemple, moi j'avais bien aimé Mozart in the Jungle, qu'on peut voir. Il y a plein aussi évidemment de films, de documentaires. Mais bon...
Non, pas tant que ça justement. C'est ça qui est assez surprenant, moi je trouve. Bon, on y reviendra.
J'en ai vu pas mal, qui sont pas diffusés. Voilà, mais là je parle des plateformes qui sont pas diffusées sur les chaînes RTL.
Voilà, on les trouve sur les plateformes numériques,
exactement. Où vous avez des films, Prova d'orchestra et plein de choses formidables. Alors moi j'ai eu une espèce d'animadversion vis-à-vis de cette série. J'ai un peu aimé la détester. Évidemment, il faut pas y aller en attendant un documentaire. Évidemment, c'est scénarisé. Et puis, au bout de assez rapidement, en fait, on se dit pourquoi la musique classique aurait pas le droit d'avoir ses feux de l'amour, d'avoir son plus belle la vie. Et vu qu'il y aura des mauvaises séries, vu qu'il y aura des séries un peu kitsch et un peu faciles, autant que ça se passe dans le monde de la musique classique, parce que du coup, au moins, on a de la musique, c'est intéressant. On a des.
Mais c'est pas présenté comme ça, Charles.
C'est ça le problème.
Alors c'est ça le problème.
On a très peu de musique.
C'est vraiment.
Il y a quand même un peu de musique. Bah, évidemment, professionnellement, il y en a peu. Il y a des œuvres qui ont été composées même exprès pour cette série. C'est quand même louable. Il y a eu des coachs qui ont été embauchés. Est-ce que le résultat est bon?
Non. Emploi fictif ou pas, quand même? La question des coachs, elle est compliquée.
Certes, mais bon, c'est quand même, je trouve, un effort assez louable. Le vrai problème pour moi, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est que par contre, ça se mélange complètement dans les genres, ça se mélange les pinceaux, parce que en 6 épisodes, ça veut être à la fois un peu une comédie, un peu une tragédie, un peu un polar. Il y a des histoires d'amour, de tromperie. Le pire, en fait, c'est les deux derniers épisodes qui vont être diffusés demain. Ou alors là, on rentre dans une espèce de délire incroyable.
Ah, j'ai hâte. Je ne l'ai pas vu.
Mais ça vaut le coup. Rien que pour voir la fin, ça vaut le coup. C'est vraiment une fin en point d'orgue, on va dire.
Lucille, comment ?
Non, mais je réagis juste à ce que vient de dire Charles. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est un pis-aller, parce que c'est terrible, en fait, ce qui est dit, justement, du milieu de la musique classique. Enfin, le niveau à la fois de misogynie, d'incohérence même économique de l'institution, de la manière dont elle fonctionne, je pense que ça a un contre-effet, vraiment.
Il y a de ça.
C'est un univers qui nous est montré qui est ultra réactionnaire. Oui, mais il y a de ça.
Il y a de ça aussi.
Mais
la série ne dit pas qu'il y a que ça, mais heureusement qu'une série comme ça montre qu'il y a des ports, il y a des scènes qui sont vraiment insoutenables, notamment comment elle passe le relais à sa première super soliste avec le mécène véreux.
C'est tellement n'importe quoi que ça ne représente plus rien, à mon avis.
Emmanuel Dupuis.
C'est pas un documentaire.
C'est pas un documentaire.
Ça pourrait être documenté.
La fiction peut quand même s'inspirer un petit peu de la réalité. Et surtout pour une fois qu'une fiction s'inspire de la musique classique, on aimerait que ça offre un reflet fidèle et un peu valorisant de la musique classique. Or là, ça donne une image absolument déplorable des musiciens. Je veux dire, la chef d'orchestre, elle est à moitié dingue, elle est cassante, autoritaire, les musiciens, ils sont tous un petit peu à l'ouest, ils se droguent, c'est bourré d'invraisemblances. Dans le premier épisode, quand la chef décide de sa propre initiative de virer le premier violon, de la remplacer par une jeunette, qu'elle envoie après faire l'annonce du ventre devant le mécène, c'est
le premier violon se retrouvant dans le métro le lendemain à faire la manche.
L'ancien violon
sur les enciments sont particulières dans cette harmonie.
C'est n'importe quoi, et puis en plus, surtout, c'est que c'est très mauvais, c'est très mal écrit, c'est un très mauvais
scénario.
Les dialogues sont affligeants, il se passe rien à part des histoires de fesses. Vous avez parlé de Mozart in the Jungle. tout à l'heure, mais c'est d'un tout autre niveau en termes de scénario, de dialogue, d'écriture, tout simplement. Et d'ailleurs, tous les grands musiciens aux États-Unis se sont battus pour faire une apparition dans cette série. Gustave Dudamel, Lang Lang, Joshua Bell ont fait une apparition dans cette série. Et puis surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, on entend peu de musique. C'est censé se passer dans le milieu d'un orchestre symphonique, ça se passerait dans une équipe de hockey sur gazon, ce serait exactement la même chose, quoi. Donc pour moi, c'est raté.
Oui, et dire, on parle de cette série dans cette émission musique, mais quand on essaye de programmer régulièrement des séries françaises dans nos disputes séries, on est quand même confronté à un niveau de qualité qui est de cet ordre-là. C'est pas réservé à la musique. Enfin, on a quand même vu beaucoup de séries Lucille catastrophiques françaises, mal écrites, mal jouées, qu'on a décidé de pas programmer dans la dispute.
Certes, mais je me demande si, justement, la méconnaissance un peu du grand public, qui est quand même un gros problème français, spécifiquement français, pour la musique classique, ne fait pas qu'on peut se permettre encore plus, du point de vue scénaristique, de se fiche absolument de la vraisemblance et des vrais mécanismes et des vrais rapports de force. Je pense qu'en fait, on est parti du principe que les gens connaissent tellement peu ce milieu et que c'est tellement étrange, au sens premier du terme, qu'on peut se permettre une invraisemblance totale. Et
je trouve que c'est également... Ou aller dans le cliché, dans le sens où on parlait tout à l'heure, Charles, c'est-à-dire le chef est forcément autoritaire et sadique.
Pas, voilà, ce que ça ne fait pas, et ça c'est terrible, c'est que ça ne désamorce pas quelque chose qui est nouveau très français, c'est de laisser entendre que la musique c'est une condition, il y a une forme de mystique et pas un métier. Quand on fait une série sur la police ou quand on fait une série sur les avocats ou sur la médecine, on considère, et c'est ça qui est intéressant même d'un point de vue fictionnel, et là oui je sais bien que c'est pas du documentaire, que c'est un métier qui a des techniques.
Temps, voilà. Les séries qui s'intéressaient à la médecine il y a 20 ou 30 ans n'étaient pas du niveau.
Je pense que là il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'une image qu'on conforte, qui est une fausse image d'un milieu et qu'il faut détruire absolument. Et si la fiction n'est pas capable de le faire, je ne vois pas qui peut le faire.
Et puis quand même pointer le fait que la musique, quand on en entend, c'est quand même extrêmement bref. J'ai lu quelque part qu'il y avait, pas mon chronomètre, mais moins d'une minute à chaque fois,
alors,
c'est quand même
Alors même qu'ils se sont associés, l'Orchestre National d'Île-de-France, qui est le vrai orchestre entre guillemets de la Philharmonie, qui a fait les enregistrements pour la série. Donc c'est super. Pourquoi on n'entend pas plus de musique ?
Charles Ardenne.
Pour que ce soit bien clair, moi je compare pas cette série à ce qu'elle aurait pu être si elle avait été mieux. Je compare à la même daube que ça aurait été, mais sans musique. Là, au moins, il y en a un peu.
Ce que je disais, elle est dans la qualité, hélas, productions françaises.
Exactement, on n'a pas les mêmes comparants. Je tiens à dire quand même, pour avoir fait de l'orchestre, il y a des choses qui sont très précises et très pointues, qui sont liées à la vie d'orchestre. Exactement, on parlait de drogue. C'est pas de la drogue qu'ils prennent, c'est des bêta-bloquants.
Mais justement, c'est ridicule que ce soit fait, qu'on laisse entendre que c'est des enfêtes,
alors qu'il suffit d'aller chez le médecin pour en prendre. Mais ça soulève ces points, les rapports entre les pupitres, il y a des petites blagues, voilà, il y a des choses, il y a des pistes. Moi, j'ai pris ça comme un peu une parodie des Inconnus, et ça passe bien mieux après.
Ouais, d'accord, vous voyez, comme une série humoristique, en fait.
Bah oui, en même temps, quand tout début, il y a un dialogue entre un Léopold et un Giacomo sur l'avenir de l'orchestre, on s'attend juste à ce que Louis de Funès arrive et dise c'était pas mauvais, c'était très mauvais, quoi.
Emmanuel Dupuis.
Non, moi je trouve que c'est une occasion ratée parce que il est évident que la fiction peut faire beaucoup pour intéresser
le public.
Et pour il y a quelques années il y a un film qui était sorti au cinéma qui s'appelait Le Concert, dont j'ai oublié le nom du réalisateur.
Radomilov, j'aurais pas dû.
Voilà, ça doit être ça.
Bon, pour chacun son truc.
C'est le chef d'orchestre tchèque, non ?
C'était pas un chef-d'œuvre absolu du 7e art, mais enfin c'était un joli petit film qui a eu un certain succès et le résultat et pendant le film c'était l'histoire d'une violoniste qui jouait le concerto pour violon de Tchaïkovski, qu'on entendait à plusieurs reprises, et il y avait de longs extraits. Et le résultat, c'est que pendant des mois et des mois, après la sortie de ce film, le concerto pour violon de Tchaïkovski a été l'œuvre la plus écoutée, la plus vendue en disque, en téléchargement, etc. Donc ça prouve bien qu'une fiction peut avoir un effet totalement positif. Là, je pense que l'effet sera nul. Pense que, puisque la musique est si peu présente, puisqu'on ne l'entend pas, je pense que l'effet sera nul.
Charles. Moi, à mon très humble niveau, j'ai vu qu'il n'était pas nul. Le lendemain de la diffusion du premier épisode, je suis allé prendre un verre avec des amis qui sont pas du tout du monde de la musique. J'en ai, hélas. Et ils m'ont tous parlé. Ils m'ont tous parlé de la musique classique, de la Philharmonie. Ils ont dit, on a regardé la série. Alors, c'est comme si, c'est comme ça. Et ça les a intéressés.
Ouais, c'est parce qu'ils vous connaissent. Donc, déjà, ils sont bizarres. Lucille, comment?
J'ai regardé sur les conseils d'une amie un tout petit morceau d'une série coréenne. Parce qu'à qu'apparemment en Asie, il y a beaucoup de séries sur la musique classique, parce que c'est une institution qui a une toute autre importance et une toute autre popularité, qui s'appelle Secret Affair, qui est sur Netflix disponible, et qui justement prend complètement à contre-pied la proposition de Philharmonia. Bon, là, il s'agit de travailler sur le piano et du monde des concours des pianos, des fondations privées qui organisent les concours de piano. Et donc, c'est une vraie institution qui est examinée comme une institution, comme un vrai milieu, avec un propos un peu naturaliste. Et c'est vraiment intéressant. Et ça se noue, par ailleurs, à des enjeux de fiction qui fonctionnent parfaitement avec.
Bon, il faut qu'on aille creuser, comme votre ami Zoé Sfez,
qui creuse
le fond des plateformes vidéo. On fera ça aussi pour nos disputes séries. Et le concert, c'est un film de Radu Mihaleanu. Bravo. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute avec Sarah Dion. Et vu l'heure qu'il est, on va passer directement à la question de ce soir qui nous fera gagner des invitations pour le spectacle The End of Reality. Une mise en scène de Marie-José Malis. Ce sont des places à gagner pour samedi 9 février à 18h au Théâtre de la Commune à Aubervilliers. Quelle est la question?
La question est: quelle était la précédente fonction de l'actuel Théâtre de la Commune?
J'ai pas la réponse. Mais si vous l'avez, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout ça par courriel à l'adresse auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez nous réécouter et nous podcaster. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques avec Sandra Adancoral et Corinne Rondeau et Annelle Pigeon. Nous parlerons de l'exposition Vasarely au Centre Pompidou, de Magique Licorne au Musée de Cluny, d'Amar Canoir, c'est l'exposition à la Galerie Marianne Goodman, et d'un coup de cœur d'Annelle Pigeon pour l'exposition d'Anna Eva Bergman à la Galerie Jérôme Poggi.